un podcast France Culture.
Un porte-conteneur qui emboutit un pont aux États-Unis, d'autres qui se font attaquer au large du Yémen, d'autres encore qui attendent de pouvoir emprunter un canal de Panama à sec. Les routes maritimes ne sont, depuis plusieurs mois, plus que détours et déviations. Face à l'allongement du temps de transport et à la vulnérabilité des chaînes du commerce mondial, peut-on encore se fier au transport maritime ? Quelles sont les conséquences économiques de ces aléas logistiques ? Nous en parlerons avec nos deux invités, les économistes Isabelle Méjean et Antoine Frémont, dans quelques minutes. Mais avant cela, comme tous les vendredis, nous nous penchons sur l'actualité de la recherche et de la pensée économique, des sphères qui se saisissent parfois de questions d'actualité et nous permettent de mieux les comprendre. C'est ce que nous propose notre invité du jour dans son ouvrage « Comment verser de l'argent aux pauvres, dépasser les dilemmes de la justice sociale » paru aux presses universitaires de France. L'économiste Guillaume Allègre n'hésite pas à s'attaquer au millefeuille qu'est le système de redistribution français et à nous en expliquer les effets attendus qui ne sont pas toujours ceux que l'on observe. L'occasion de revenir sur quelques mythes qui accompagnent la science économique quasiment depuis ses débuts et qui ne cessent pourtant de faire l'actualité. Verser des aides aux plus démunis risque-t-il de les désinciter à retrouver un emploi ? Faudrait-il cibler davantage ces aides ou au contraire les universaliser ? Des questions qui interrogent plus fondamentalement la façon dont les économistes se saisissent de la question de la justice sociale et leur rôle dans la vie politique et démocratique. Bonjour Guillaume Allègre.
Bonjour Alia Tovin.
Alors nous allons parler de la façon dont on peut redistribuer l'argent, les outils qui sont à disposition, puisque c'est l'objet de tout votre ouvrage. Mais avant cela, il faut peut-être revenir sur ce qui semble être une évidence, mais qui n'en est peut-être pas une. Pourquoi ? Au nom de quoi cherche-t-on à lutter contre la pauvreté, Guillaume Allègre ?
Alors c'est une bonne question, effectivement on peut partir de là avant de poser la question du comment, on peut poser la question du pourquoi. Donc déjà parce qu'on a un devoir d'assistance et aussi pour répondre à un droit garanti constitutionnellement qui est le droit à des moyens convenables d'existence. Voilà, pour les personnes privées d'emploi. Donc c'est aussi pour ça, et à la fois cette assistance et ce droit à des moyens convenables d'existence pour les personnes privées d'emploi démontrent aussi, je vais aller un peu... plus loin dans la démonstration que ce droit-là, il fait l'objet d'une contrepartie en termes de réciprocité.
Ce qu'on comprend bien, c'est qu'il y a certes la notion de droit qui est un petit peu systématiquement accolée à celle de devoir. Et d'ailleurs, vous soulevez un paradoxe finalement dès le début de votre ouvrage, au-delà du relatif consensus qui entoure la question de la réduction de la pauvreté, subsiste quand même le fait que dans aucun pays jusqu'ici, c'est ce que vous dites, les revenus d'assistance ne sont considérés comme un droit inconditionnel. Et ça, c'est un point majeur. Est-ce que c'est cela, selon vous, finalement, le plus grand dilemme de tous les dilemmes de la justice sociale, pour reprendre le titre de votre ouvrage ?
En fait, il y a trois caractéristiques qui distinguent les revenus minima garantis dans les pays qui les ont mis en place. C'est que, un, ils sont conditionnels. Deux, ils sont familialisés, pas individualisés. Et trois, ils sont ciblés sur les pauvres et pas versés de façon universelle. Et donc ces trois caractéristiques éloignent finalement ces revenus minima du revenu universel. Et donc une des raisons pour lesquelles des points de départ pour lesquels j'ai écrit ce livre, c'est de partir justement de ces questions-là et de voir pourquoi est-ce que on a mis en place des revenus conditionnés, familialisés et ciblés sur les plus pauvres.
Mais justement cette question-là du pourquoi il y a cette conditionnalisation, pour le dire ainsi, elle est extrêmement intéressante parce qu'elle imprègne finalement, c'est une forme aussi de mythe aussi, cette idée de se dire qu'il y a l'idée du mérite qui est derrière tout ça. Il y a l'idée qu'on ne donne pas gratuitement une aide, il faut quelque part justifier de son besoin, de son mérite, et c'est des notions assez différentes d'ailleurs, Guillaume Allègre.
Oui, alors une des autres raisons pour lesquelles on redistribue, et pas seulement pour lesquelles on réduit la pauvreté, c'est parce qu'on peut penser que lorsque on choisit les institutions économiques, ça fait des gagnants et des perdants. Par exemple, lorsqu'on signe un traité, lorsque il y a un droit de la propriété, par exemple, fait des gagnants et des perdants. Et il y a une coopération qui s'ensuit, et ces gains de coopération sont pas forcément bien distribué. Et donc, se préoccuper des plus pauvres, c'est être sûr que tout le monde, finalement, est gagnant de la coopération. De la coopération. Et donc ça suppose aussi qu'il y ait une forme de coopération et des formes de réciprocité. Et donc pas de séparatisme social.
Et qu'il y ait aussi une forme de consensus. Il faut que les gens soient d'accord pour mettre la main à la poche pour assister effectivement les plus pauvres. Il y a cette idée que si on n'est pas d'accord sur ce principe fondamental-là, rien ne se fera aussi.
Voilà, et le consensus, il provient d'une discussion par rapport à des règles justes, en fait. Donc les institutions qu'on doit choisir, finalement, on les choisit parce qu'elles sont justes, et c'est comme ça que le consensus se crée.
Alors, il y a un autre point que vous faites dans votre ouvrage et qui est assez intéressant. En fait, à vous lire, Guillaume Allègre, on a presque l'impression que vous nous mettez en garde finalement contre les économistes que vous êtes pourtant, puisque je rappelle que vous êtes économiste à l'OFCE, l'Observatoire français des conjonctures économiques. Ces économistes, nous dites-vous, dès lors qu'ils sont chargés de proposer des solutions concrètes en termes de justice sociale, devraient en réalité porter trois casquettes, celle du plombier, celle de l'ingénieur, celle du philosophe. Ce sont des métaphores, on va dire, qu'on a entendues assez régulièrement, notamment sous la plume d'Esther Duflo, etc. Ce sont trois conceptions, finalement, de ce à quoi devrait servir l'économiste dans la cité. D'où vient cette nécessité d'avoir les trois, selon vous, Guillaume Allègre ?
Voilà, exactement. Donc, l'économiste comme plombier, c'est la métaphore qu'utilisait effectivement par Esther Duflo. Bah, ça veut dire qu'il faut connaître les tuyaux, en fait, hein. Et que, l'idée, c'est d'éviter de construire des cathédrales théoriques qui soient complètement déconnectées de ce qui est possible de faire, finalement, au jour le jour. Et donc, ça, c'est l'économiste plombier. Mais effectivement, il faut aussi se préoccuper des fins et des fins sociales. Et les fins, les objectifs, ne sont pas donnés finalement et ils doivent être constamment discutés. Donc ça, c'est plutôt l'économiste comme philosophe et l'idée évidemment, c'est d'éviter de d'être seulement économiste aussi comme ingénieur, c'est-à-dire un pur calcul qui serait déconnecté à la fois des tuyaux et à la fois des fins.
Et parce que c'est ce que vous nous dites, c'est que à la fin des fins, justement, l'économiste qui se préoccupe de politique publique est censé proposer des solutions et avoir une vision finalement assez normative de ce qui devrait être. Et cette vision-là, elle n'est pas forcément, on va dire, une évidence pour des économistes peut-être plus techniciens. Mais dans ce cas, ma question va être la suivante. Comment on sait qu'on peut faire confiance à des économistes? Comment on sait que les économistes chargés de mettre en place ces politiques publiques ont bien une certaine vision du monde et une vision transparente, démocratique, une vision avec laquelle on pourrait ou non être d'accord, mais en tout cas qu'on connaîtrait?
Voilà, alors faut éviter deux écueils. Donc le premier écueil, ce serait l'écueil du pur calcul économique. C'est-à-dire une phrase qui commencerait d'un point de vue économique, alors il faut faire ceci, ceci ou cela. Ça, c'est pas possible, puisque l'économie ne peut pas dire ce qu'il faut faire, puisque les fins, justement, ne sont pas données. Donc ça, c'est le premier écueil. Le deuxième écueil, ce serait l'écueil du tout politique, finalement. Où finalement, l'économie ne serait que pure rhétorique et l'économiste serait conseiller du prince et l'aiderait soit à conquérir le pouvoir, soit à s'y maintenir. Et entre les deux, il y a l'argumentation en termes de justice ou d'équité. C'est-à-dire que l'économiste doit éclairer le débat public plutôt que le clore par le calcul, et donc l'éclairer en partant de principes de justice partagés.
Et vous diriez qu'aujourd'hui, en France, les économistes chargés, on va dire, d'étudier les politiques publiques, leur impact et aussi ce qu'elles pourraient prendre comme direction, vous direz que, de façon générale, ils ont ces trois casquettes-là?
Oui, mais souvent en fait, hein, dans la plupart des centres de recherche qui répondent à des questions appliquées, les gens prennent ces trois casquettes-là. Plutôt, la critique porte plutôt sur l'économie un peu plus académique, où souvent finalement, il ne reste plus que le calcul finalement.
Alors on l'a dit, hein, en début d'émission, que finalement l'impératif de justice sociale pouvait se traduire par de multiples politiques publiques économiques. Sur quelle conception de la justice sociale s'appuie, selon vous, le système français aujourd'hui, Guillaume Allègre?
Alors, il s'appuie sur une conception finalement plutôt pluraliste. On peut reprendre mon ouvrage. Il part du comment verser de l'argent aux pauvres. Il part surtout du RSA. Donc le RSA, anciennement RMI, a été mis en place en 89 en France. Pour faire en sorte de combler un trou dans la raquette, parce que finalement, avant le système français historiquement est plutôt corporatiste, c'est-à-dire va protéger les revenus des travailleurs via des grilles salariales, via une protection du revenu. Or, ce système-là, il est efficace jusque dans les années 70, et puis après, avec la montée du chômage, la montée de la précarité, la montée de l'emploi féminin aussi, il y a des trous dans la raquette. C'est-à-dire que le système n'est pas fait pour cette nouvelle économie-là. Il y a des nouveaux pauvres. Et donc là, à partir de 1989, on va plutôt vers un système qui avant était corporatiste et devient de plus en plus universaliste.
Alors justement, sur ce qu'est ce modèle français-là et de quoi on a hérité et on hérite encore aujourd'hui, je voudrais vous faire écouter une archive d'une déclaration de politique générale, celle du Premier ministre Michel Rocard devant l'Assemblée nationale le 29 juin 1988.
L'espoir, c'est aussi permettre à ceux qui sont les plus durement frappés que notre société laisse partir à la dérive, que la marginalité guette d'avoir droit à une deuxième chance. Tel est le sens profond du revenu minimum d'insertion. Instaurer un droit au revenu minimum est une innovation d'une portée considérable. Après la création de la sécurité sociale, puis sa généralisation, après l'instauration du minimum vieillesse et des allocations chômage, c'est là construire le dernier étage, franchir la dernière étape. Qu'on y songe, notre pays a déployé des décennies d'efforts pour lutter contre la pauvreté et contre le dénuement complet. Il entreprend maintenant de les attaquer avec une vigueur nouvelle. La solidarité n'est pas la bonne conscience de la modernisation, elle est la condition de sa réussite.
Voilà, Guillaume Allègre, on entendait donc Michel Rocard en 1988. Est-ce qu'on a changé de modèle depuis cette époque-là ?
Alors, l'époque a changé. Il faut rappeler qu'en 88, le revenu minimum d'insertion, il est voté à l'Assemblée nationale en deuxième lecture à l'unanimité. C'est-à-dire que il y avait des débats, évidemment, à la fois à gauche. Donc la gauche avait la majorité avec le PC, hein, le gouvernement était minoritaire, mais avec le PC, la gauche avait la majorité, et donc aurait pu faire une mesure, discuter entre eux, ils auraient pu discuter entre eux et faire voter une mesure. Mais ils ont voulu justement chercher un compromis, et donc ils ont voulu chercher un compromis avec l'opposition de droite, et qui avait des lignes rouges, et une des lignes rouges c'était l'inconditionnalité. C'est-à-dire que il y avait probablement une majorité de députés de gauche qui étaient pour l'inconditionnalité, mais les députés de droite n'ont accepté de voter la loi que parce que on a mis en place une conditionnalité. Et la conditionnalité à l'époque, le compromis qui avait été adopté entre les groupes parlementaires, c'était une conditionnalité relativement faible. C'est-à-dire que vous commenciez par toucher le RMI avec un contrat d'engagement, et si le contrat était manifestement pas suivi, eh ben vous pouviez être sanctionné, mais avec un très faible nombre de sanctions jusqu'à pratiquement aujourd'hui.
Et la raison pour laquelle je vous pose la question, Guillaume Allègre, c'est que il y a eu une autre déclaration de politique générale beaucoup plus récente, fin janvier, par un autre Premier ministre, qui est le nôtre actuellement, Gabriel Attal, qui visait entre autres à justifier la suppression de l'allocation de solidarité spécifique, l'ASS, au nom d'une forme de trappe à inactivité. C'est ce qu'il a dit, c'était les mots, trappe à inactivité, que toucherait, qui résulterait de cette allocation-là. Est-ce que le fait d'agiter finalement cet argument-là est un tournant ?
Alors, la question des trappes à inactivité, en fait, assez précisément, elle est arrivée dans le débat public en France au début des années 2000, en même temps que celle des travailleurs pauvres, d'ailleurs. Et elle a été résolue, en fait, dans les faits, en 2008, lorsqu'on a mis en place le RSA. C'est-à-dire que lorsqu'on a mis en place le RSA à la place du, en remplacement du RMI, et depuis cette réforme-là, le travail paie dans à peu près toutes les configurations. C'est-à-dire que maintenant, vous pouvez cumuler RSA et revenu d'activité de sorte que même une reprise d'emploi à temps partiel paie financièrement. Voilà, donc ça, cette question-là, elle a été résolue donc en 2008, mais ce qui n'empêche pas évidemment qu'on continue,
qu'on y revienne
systématiquement. Alors même que le niveau relatif du RSA baisse depuis 30 ans en fait, hein, puisqu'on était à peu près à 50% en 89 quand le RMI a été mis en place, et aujourd'hui on est plutôt à 42%. Du SMIC.
Oui, il y aura une réforme de l'assurance chômage cette année. Mais pourquoi ? D'abord parce que, je le disais il y a un instant, notre objectif, c'est d'atteindre le plein emploi, qu'il y ait davantage de Français qui travaillent. Et donc, je le dis ici, mon objectif, c'est pas de m'en prendre à tel individu ou au chômeur. C'est de faire bouger un système pour inciter davantage à la reprise d'emploi. C'est ça le seul objectif qui est le nôtre. On a déjà fait une réforme de l'assurance chômage dans cet objectif. Je rappelle qu'on a réformé le RSA. On a mis des conditions pour avoir le RSA, notamment avoir 15 heures d'activité vers l'insertion par semaine. J'ai annoncé moi-même la généralisation de ce nouveau système. Je suis allé avec ma ministre Catherine Vautrin dans les Vosges voir des bénéficiaires. Il y a des premiers résultats spectaculaires. Alors, avec des personnes qui étaient parfois au RSA depuis 10 ans, qui reprennent un emploi.
Alors mercredi soir, le Premier ministre Gabriel Attal a donné sur le plateau de TF1 les grandes lignes de sa réforme de l'assurance chômage, dont on entendait à l'instant un extrait. C'est une réforme qui est menée au nom du plein emploi, qui, on va dire, s'établit à peu près 5% de chômage. Aujourd'hui, on est à 7,5%, je crois. Ont été évoquées les idées de réduire l'indemnisation des chômeurs de plusieurs mois, d'augmenter la durée d'affiliation, c'est-à-dire le temps travaillé nécessaire pour toucher une allocation, et de revoir à la baisse le niveau d'indemnisation grâce à de nouvelles méthodes de calcul. De tels outils, selon vous, Guillaume Allègre, sont-ils à même de produire un effet positif sur le niveau de l'emploi ?
Alors déjà, on peut dire que l'objectif de plein emploi de qualité est un objectif légitime. Parce qu'évidemment, il faut pas non plus que ça soit le plein emploi coûte que coûte. Hein. C'est le plein emploi, l'objectif, ça doit être le plein emploi de qualité. Après, on peut regarder un petit peu comment font les pays qui ont des hauts taux d'emploi. Quels sont les pays qui ont des hauts taux d'emploi dans l'OCDE ? Bah, il y a l'Islande, la Suède, la République tchèque. C'est pas des pays qui ont tout misé sur les incitations monétaires. Aux États-Unis, à l'opposé, faible taux d'emploi, les 25-54 ans, le taux d'emploi des 25-54 ans aux États-Unis est faible, voire même très faible en comparaison européenne, alors que justement c'est un des pays où les prestations sociales sont les plus faibles et où les incitations à travailler sont les plus élevées. En tout cas, où la redistribution est faible et la fiscalité est faible. Donc non, donc l'objectif de plein emploi, oui. Mais par l'incitation financière, je ne pense pas que ce soit le meilleur moyen d'y arriver. Et notamment par la réduction des allocations chômage. Qu'est-ce que sont les allocations chômage ? Alors là, c'est vraiment un peu désuet hein, de réduire les allocations chômage pour augmenter l'emploi. On revient à une pensée pré-keynésienne finalement, parce que font les allocations chômage ? C'est justement de la redistribution efficiente, c'est-à-dire qu'elle vous aide à lisser votre revenu pour pas que vous tombiez dans la spirale de la pauvreté, hein, que vous ayez à déménager parce que vous pouvez plus payer votre loyer plus loin, là où vous allez plus pouvoir trouver d'emploi. Donc ça, c'est première chose. Elle vous aide aussi à attendre qu'il y ait un emploi qui soit le plus adapté à vos besoins et vos qualités. Donc un emploi qui sera plus productif et sur lequel vous allez justement payer plus d'impôts. Et troisièmement, elle peut aussi servir pour certains à créer une entreprise. Il y a des allocations création d'entreprise. Et donc voilà, et à créer des entrepreneurs. Donc c'est un peu une vision désuète de penser, de se dire on va réduire les allocations chômage pour atteindre le plein emploi.
Et du reste, on voit bien que la tendance générale est à la conditionnalisation des aides. C'est dans l'air du temps. Vous, de votre côté, vous proposez, je cite, une réforme pour le 21e siècle dans laquelle un revenu minimum d'insertion remplacerait le revenu de solidarité active actuel. En quoi ce revenu minimum d'insertion que vous évoquez serait-il juste selon vous, Guillaume Allègre ?
Alors déjà, ce serait un revenu, dans cette optique-là, c'est le revenu qui insère. C'est-à-dire que en 88, lorsque Michel Rocard parlait devant l'Assemblée nationale, il a proposé un revenu minimum d'insertion, le revenu qui insère. C'est-à-dire, la trappe à pauvreté, ce ne sont pas les allocations qui diminuent lorsque vous reprenez un emploi. La trappe à pauvreté, c'est la pauvreté elle-même, c'est-à-dire le manque de ressources qui ne vous permet pas de faire les investissements nécessaires en termes d'éducation, formation, santé, mobilité. Donc voilà, donc je pense qu'il faut retrouver cet esprit-là, l'esprit de 89, et aller vers une allocation dont l'objectif est d'insérer.
Eh bien, merci beaucoup, Guillaume Allègre, d'être venu aujourd'hui dans notre studio. Aux auditeurs qui voudraient tout comprendre aux mécanismes de redistribution en France, et ils sont nombreux, on n'a pas eu le temps de les évoquer dans leur entièreté aujourd'hui, mais de les comprendre, eux, leurs effets réels et escomptés, et comment envisager d'autres outils, je recommande très vivement votre ouvrage « Comment verser de l'argent aux pauvres, dépasser les dilemmes de la justice sociale ». C'est paru le 7 février 2024 aux presses universitaires de France. Entendez-vous, l'écho se poursuit avec une table ronde d'actualité consacré désormais au péril qui menace les chaînes logistiques du commerce mondial. On en parle juste après Chain Gang de Sam Cooke. I hear something saying the sound of the men working on the chain gang. That's the sound of the men working on the chain gang. All day long they're saying ah, 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 ah. Well, don't you know, that's the sound of the men working on the chain gang. That's the sound of the men working on the chain gang. All day long they work so hard till the sun is going down, working on the highways and byways and wearing a frown. You hear them moaning their lives away, then you hear somebody say, that's the sound of the men working on the chain gang. That's the sound of the men working on the chain gang. Can't you hear them saying, I'm going home one of these days. I'm going home, see my woman, whom I love so dear. But meanwhile, I've got to work right here. Vous êtes toujours à l'écoute d'Entendez-vous l'écho sur France Culture, une émission réalisée par Françoise Le Floch et mise en onde par Élise Leu. Tout de suite, place à notre table ronde d'actualité consacrée aux déboires que connaît actuellement le commerce international.
Les forces navales des forces armées yéménites ont mené une opération de ciblage contre le navire CMA-CGM Tej qui se dirigeait vers les ports de la Palestine occupée. L'opération de ciblage a eu lieu après que l'équipe du navire a refusé de répondre aux appels des forces navales yéménites, y compris aux tirs d'avertissement. Les forces armées yéménites affirment que toute agression américaine ne restera pas sans réponse ni impunité. Les forces armées yéménites mettent en garde l'ennemi américain ou d'autres contre toute attaque ou action qui constituerait une protection des navires commerciaux à destination de l'entité sioniste.
Un nombre important de compagnies, environ 18 compagnies maritimes, ont décidé de dérouter leurs navires autour de l'Afrique du Sud. Afin de réduire les attaques sur les navires et bien sûr l'impact que ça a sur les marins en particulier. Cela représente 10 jours supplémentaires pour les voyages et bien sûr un impact négatif sur le commerce et sur l'augmentation des taux de fret.
Cela illustre le fait que les Houthis comptent toujours mener ces attaques. Nous allons donc continuer de faire le nécessaire pour protéger ce moyen de transport.
Le canal de Suez, qui rapportait à l'Égypte près de 10 milliards de dollars par an, a vu ses recettes diminuer de 40 à 50%.
Mercredi 6 mars, deux hommes ont été tués à bord d'un navire marchand américain qui se situait au large du Yémen. Le 17 février, il s'agissait d'un pétrolier britannique. Alors les attaques des rebelles houthis envers des navires dits ennemis se succèdent depuis le mois de novembre. De façon générale, les tensions géopolitiques nouvelles et anciennes tout autour du globe viennent renforcer l'instabilité d'un transport maritime désormais confronté à de nombreux aléas, dont la collusion entre un porte-conteneur et le pont survenu ce mardi à Baltimore est un nouvel exemple. Alors, est-ce qu'on peut se fier au transport maritime? Est-ce qu'on peut envisager un commerce international qui serait moins dépendant de ce dernier? Toutes ces questions, nous allons les poser à nos deux invités du jour, puisque nous recevons l'économiste Isabelle Méjean. Isabelle Méjean, vous êtes professeure à Sciences Po et membre du Conseil d'analyse économique. Également avec nous en studio, Antoine Frémont. Vous êtes professeur du Conservatoire national des arts et métiers et titulaire de la chaire Transport, flux et mobilité durable. Bonjour et bienvenue à tous les deux.
Bonjour.
Bonjour.
Alors on l'entendait dans ce condensé d'extraits qui débutait par une déclaration très vigoureuse d'Yahya Chari, le porte-parole militaire des Houthis le 3 janvier 2024. Les attaques de cargo se succèdent au large du Yémen. On en dénombre plus de 35 en mer Rouge depuis le mois de novembre, soit depuis le début de la guerre qui oppose Israël au Hamas. Antoine Frémont, quelles sont les conséquences concrètes de ces attaques pour le transport maritime ?
Les conséquences, c'est que l'une des principales routes maritimes mondiales est très gravement perturbée, puisque la route dont on parle, c'est la route entre l'Asie orientale et l'Europe. Et donc, avec la liaison transpacifique entre l'Asie orientale et la côte ouest des États-Unis, ce sont les deux plus grandes routes maritimes mondiales où passent énormément de porte-conteneurs dont on va parler et dont dépendent très directement nos chaînes d'approvisionnement. Et donc, ce qui se passe au Yémen et la menace quotidienne que font planer les Houthis sur la circulation maritime, en fait, ça remet en cause cette autoroute. Donc, c'est comme si on avait une autoroute qui était gravement perturbée. Les chiffres qui ont été donnés dans le reportage permettent de bien montrer l'ampleur de ce qui est en jeu. Et par le canal de Suez, et donc ça passe aussi par le détroit de Bab el-Mandeb, eh bien, c'est de l'ordre de 1500 navires par mois qui passent. Et donc, si le trafic est perturbé, Par conséquent, ça a des répercussions tout à fait considérables.
Isabelle Méjean, vous avez rédigé un chapitre d'ouvrage intitulé « La mondialisation et ses vulnérabilités » dans un ouvrage lui-même intitulé « Agir face au dérèglement du monde ». De telles attaques, de telles perturbations dans le paysage géopolitique font-elles partie des vulnérabilités prises en compte par les acteurs du commerce international ?
Oui, tout à fait. Ça participe vraiment à ce dont je parlais dans cet ouvrage, c'est-à-dire le fait qu'aujourd'hui le commerce international il est organisé d'une manière qui est extrêmement optimisée. Et quand je parle du commerce international, je parle aussi de la logistique du transport international et donc les chaînes d'approvisionnement et le transport des biens au sein de ces chaînes d'approvisionnement. Il repose sur une logistique bien huilée, largement à flux tendu, qui est basé sur un fonctionnement en temps normal permettant de réduire au plus les coûts à l'échange et les coûts du transport international, mais qui sont très vulnérables à des événements ciblés de ce type-là. Donc ça peut être des problèmes de production, des pénurie ou d'autres choses qui affectent certains points des chaînes de valeur, mais ça peut aussi être des nœuds de la logistique internationale, comme c'est le cas ici.
Donc on le comprend bien, dès qu'un grain de sable vient s'insinuer dans cette logistique bien huilée, comme vous l'avez dit Isabelle Méjean, cela remet en cause tout un secteur, tout un paradigme économique aussi. Antoine Frémont, pour rentrer dans le détail, vous le disiez, le détroit de Bab el-Mandeb qui relie l'océan Indien à la mer Rouge et qui permet de connecter finalement l'Asie à l'Europe via le canal de Suez, c'est un secteur géographique très stratégique, ça on l'a bien compris. Il représente 30%, enfin 12% du volume du commerce mondial. Et on l'a compris aussi grâce à Isabelle Méjean, dès qu'il y a le moindre grain de sable, c'est la catastrophe. Alors comment très concrètement, Antoine Frémont, les compagnies maritimes s'adaptent-elles ?
Alors les compagnies, elles s'adaptent comment ? En reroutant les navires. Et on n'est quand même pas... Et donc finalement... À la fois, il y a des impacts directs qu'on mesure très vite, mais ensuite, il y a une capacité de résilience du système parce que on n'est pas sans solution alternative. Et donc, la solution alternative, c'est le passage par le cap de Bonne-Espérance. Donc, ça rajoute de la distance, mais par rapport à ce qu'a dit Isabelle Méjean, il y a un petit temps d'adaptation, mais ça remet pas en cause les chaînes d'approvisionnement et les chaînes d'approvisionnement en flux tendu. Parce que, alors j'insiste bien, il y a le temps d'adaptation, c'est-à-dire que les compagnies maritimes, à partir du mois de novembre, elles se sont posées la question, j'y vais pas. Face à l'augmentation des menaces et à la récurrence des menaces, elles ont décidé de basculer leur service maritime en passant par le cap de Bonne-Espérance. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que les lignes conteneurisées, ce sont des lignes régulières. Donc des navires, des services réguliers qui suivent les mêmes itinéraires, qui fréquentent les mêmes ports. Et donc, qui offrent comme service aux chargeurs, donc aux personnes qui ont besoin de faire transporter leurs marchandises, des services, généralement, la règle, ce sont des services hebdomadaires. Et donc, par rapport à ce que disait Isabelle Méjean, les chargeurs, ils sont certains d'avoir une fois par semaine des navires qui arrivent en provenance de Chine pratiquement à heure fixe, j'ai envie de dire, en tout cas à jour fixe. Et donc là, il y a eu une réorganisation en passant par le cap de Bonne-Espérance. Ça a des conséquences, c'est-à-dire que le temps de rotation des navires est plus long, en tout pour une boucle complète entre l'Europe et l'Asie. La boucle complète, hein, c'est-à-dire je pars d'Asie, je vais en Europe et je retourne en Asie. Il faut rajouter environ 14 jours, 14 à 15 jours. Et donc ça veut dire que pour un service, il faut rajouter deux navires supplémentaires. Si 14 jours pour avoir une fréquence hebdomadaire, il faut rajouter deux navires pour avoir cette fréquence hebdomadaire. Et donc là, typiquement, les compagnies maritimes, on est passé sur des services où il y avait, pour faire un service, il y avait 10, 11 navires. Et on est passé à 13 navires. Donc ça demande de la capacité de transport supplémentaire.
Cette capacité de transport supplémentaire et finalement cette reconfiguration des cartes, enfin en tout cas de la route empruntée par ces porte-conteneurs, c'est quelque chose d'inhabituel pour ces compagnies-là. Est-ce que ça a un coût, Isabelle Méjean ? Est-ce que c'est quelque chose qui vient un peu bouleverser justement cette logique de flux tendu dont vous parliez ?
Bah, ces compagnies, c'est leur métier, hein, donc leur métier consiste à gérer les flux et
donc c'est plutôt facile
à gérer
de redessiner les risques, une carte.
Exactement. En l'occurrence, ça s'est passé aussi à une période qui est pas trop mauvaise, parce qu'en fait, les compagnies sortaient de la crise de 2021. Et en fait, en 2021, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu le même genre de bouleversement, de reroutage et de changement dans les routes du commerce pendant un temps. Et ça a eu des effets très importants, parce qu'à ce moment-là, il y a eu une pénurie de containers. Donc, il n'y avait plus assez de bateaux. Et donc, les compagnies ont investi dans des nouvelles capacités, des nouveaux bateaux, ce qui fait qu'aujourd'hui, c'est possible de rerouter et de perdre, disons, 10 jours sur cette route, parce qu'il y a plus de capacités. Et donc, il y a des capacités qui permettent de faire le tampon de cet événement inattendu.
Dans un entretien au Financial Times, vendredi 12 janvier, Vincent Clerc, le patron de Maersk, dit redouter qu'un blocage durable exerce une pression inflationniste sur ses coûts. Alors cette nouvelle configuration des flux, Antoine Frémont, ça pourrait effectivement entraîner un coût pour ces compagnies qui, bon, selon ce que nous dit Isabelle Méjean, ont l'air d'avoir prévu quand même un peu le coût. Mais est-ce qu'il y a le risque effectivement de voir, en termes de prix du carburant, en termes de peut-être de salaire versé aux salariés, est-ce que tout ça risque de provoquer une hausse généralisée des prix?
Comment je pense, il y a les impacts à court terme et les impacts à long terme. Bon, ça dépendra du temps de la crise. Par rapport à effectivement, les armateurs, ils n'avaient pas prévu le coup, mais c'est parce que après le Covid, il y a eu un manque de capacité de transport et donc ils ont commandé à tour de bras. Or, on est actuellement plutôt en période de ralentissement économique, et donc il y a de la surcapacité de transport. Alors, j'ai envie de dire que cette surcapacité de transport est absorbée par la crise actuelle, et que ça permet que les taux de fret, c'est-à-dire le prix auquel un chargeur va payer son conteneur sur le navire, ne s'effondre pas, et au contraire, les taux se tiennent, ont plutôt tendance à remonter, et donc... oui, ça peut avoir une petite pression inflationniste, mais rien à voir par rapport à ce qui s'est passé après la crise du Covid, où là, les chaînes logistiques étaient très perturbées parce que il y avait des congestions dans les ports chinois n'étaient pas repartis. Alors que là, en fait, il y a finalement, c'est ce que je disais, une résilience, une adaptation extrêmement rapide. Certes, il y a une augmentation des coûts, mais il y a quelque chose qu'il faut avoir en tête, c'est que sur les plus gros porte-conteneurs, vous avez jusqu'à 20-25 000 boîtes. Et dans une boîte, vous mettez des quantités colossales de marchandises. Des costumes, des paires de jeans, des ordinateurs, des chaussures de sport, etc. Et donc, le coût du transport maritime ramené à l'unité de marchandises, c'est rien du tout. Donc même quelques centimes. Donc même si ça augmente, même si le coût du transport maritime augmente, j'ai envie de dire que vous rendez dans votre rayon de consommation, la part du transport maritime restera faible.
Ce qui explique sans doute aussi son succès. On va y revenir. Cela dit, Isabelle Méjean, après 5 mois de perturbation, maintenant les conséquences semble quand même se faire ressentir en Europe. Tesla a mis à l'arrêt sa gigafactory européenne située en Allemagne depuis le 29 janvier à cause de retards d'approvisionnement. Volvo aussi a suspendu sa production en Belgique pendant 3 jours. Est-ce que ça prouve quand même, Isabelle Méjean, que finalement l'industrie, et a fortiori l'industrie européenne, est quand même grandement dépendante de ce transport maritime qui peut être facilement fragilisé?
Oui, toute l'industrie est organisée sur des chaînes de valeur qui ont une dimension internationale très importante. Et même des industries comme l'automobile, c'est très régional, parce qu'en fait, la plupart des pièces sont quand même assez lourdes. Et donc, les chaînes de valeur dans l'industrie automobile sont plutôt beaucoup plus concentrées qu'ailleurs. Mais dans ce genre d'organisation de la production, finalement, c'est pas très important d'avoir un ensemble qui est très ramassé géographiquement. Il suffit de manquer d'une, deux pièces pour arrêter l'ensemble de la chaîne. Et c'est ça qui rend ce genre d'organisation productive très efficace, mais c'est ça qui les rend aussi assez vulnérables.
Et on parlait de la question d'une potentielle inflation qui serait liée à ça. Alors, Antoine Frémont a écarté ce risque, mais il n'y a pas que des automobiles, des ordinateurs et des baskets qui circulent. Il y a notamment du gaz liquéfié qui a pris beaucoup de retard, voire qui a été, ou en tout cas qui a été complètement stoppé. Est-ce que l'Europe risque de manquer de gaz liquéfié, et est-ce qu'on risque de voir une augmentation des prix de l'énergie de ce fait-là, selon vous?
En fait, c'est un peu la crainte. Donc, pour donner un ordre d'idée, aujourd'hui, le coût du transport international sur les biens qui sont importés en valeur, c'est 7%. Et ça comprend le fret maritime, mais ça comprend aussi plein d'autres éléments. Donc, c'est effectivement petit par rapport à la valeur des choses. Et c'est pour ça que l'effet inflationniste, il est l'effet inflationniste direct est limité. Après, les craintes, c'est toujours de la transmission à d'autres éléments de la chaîne de valeur, donc typiquement l'impact sur le prix du pétrole, le prix de l'énergie, qui là peut avoir des effets de transmission au reste de la chaîne de valeur qui sont beaucoup plus importants. Donc c'est un peu ça les craintes, mais effectivement aujourd'hui, on n'en est pas là, on n'est pas du tout, pour donner un ordre d'idée, je pense que mon collègue connaît ça mieux que moi, donc j'ai révisé ce matin, j'ai regardé les prix pour avoir un ordre d'idée, au plus haut de la crise de 2021, l'indice World Container, qui est un des indices qui existent, il était à 10 000. À novembre 2023, il est à 1 500. Aujourd'hui, il est à peu près à 4 000 $ pour un cargo de 40 pieds. Donc voilà, c'est pour donner un ordre d'idée. Aujourd'hui, on n'en est pas du tout à ce qui s'est passé au moment de la crise Covid. Et il se trouve qu'aujourd'hui, on a déjà des estimations qui sont très incertaines, mais qui donnent un ordre d'idée sur ce qui s'est passé au moment du Covid et à quel point ça a finalement contribuer à la vague inflationniste qui a suivi. Pour donner un ordre de grandeur, une augmentation de 20% du coût du transport international va se retrouver au final sur l'indice de prix à la consommation à hauteur de 0,15 points de pourcentage. Voilà. Donc c'est petit, mais ça peut être une impulsion. C'est ça le problème, c'est que comme c'est très central, ça contribue à beaucoup d'éléments de la chaîne de valeur. Après, ça s'ajoute. Et donc si ça contamine des choses comme le pétrole, l'énergie, etc. Là, ça peut devenir plus inquiétant. C'est pas du tout l'inquiétude aujourd'hui, mais c'est ce genre d'effet de contamination qui peuvent devenir ensuite inflationnistes.
Alors, on parlait justement, en parlant de la crise Covid, du fait que les armateurs avaient retenu des leçons finalement de cette grande crise, qui était une grande crise logistique, notamment on va dire en multipliant les achats de conteneurs et en faisant du stock quelque part. Est-ce que, Isabelle Méjean, d'autres leçons ont été retenues du Covid pour éviter l'effet d'emballement qu'on a connu à cette époque-là? Est-ce que ça a changé la donne finalement en termes de logistique internationale?
Alors, je suis pas une experte, peut-être que c'est plus mon collègue qui peut répondre, mais ce qui est certain, c'est que d'abord, la crise Covid, ou même, en l'occurrence, les attaques sur les navires, ça fait partie des risques extrêmes, c'est des choses qui ont une probabilité très très faible d'arriver, et donc qui sont quasiment inassurables. C'est vraiment la catégorie de risque pour lesquels on va faire des scénarios de risque, éventuellement pour se préparer, mais on ne peut pas s'assurer pour ce genre de choses. Les entreprises de logistique internationale, c'est des entreprises qui, encore une fois, gèrent le risque au quotidien. C'est-à-dire que à chaque fois qu'ils envoient un conteneur, ils doivent gérer, les tempêtes qui arrivent au milieu de l'Atlantique Nord et s'adapter en continu. C'est leur métier. Le métier du flux, c'est leur métier et c'est des experts sur ce sujet. Donc, je pense que il faut toujours faire attention à ne pas déduire des dérèglements, une incapacité à prévoir le risque est structurel, parce que ce qu'on a vu, au contraire, c'est que dans un cas de choc extrême, qui était vraiment difficile à prévoir, qui est ce qui s'est passé après le Covid, finalement, ça n'a pas trop mal marché. Moi, c'est plutôt dans ce sens-là que les conclusions que je tire. C'est étonnant quand on réfléchit au niveau d'optimisation de voir effectivement qu'il y a des endroits, il y a des nœuds de résilience qui ont permis au commerce mondial de continuer à délivrer alors même qu'il y avait zéro mouvement international de personnes. Voilà.
C'est vrai que c'est relativement inattendu et assez surprenant et aussi extrêmement intéressant de tirer cette conclusion-là.
Après, juste, pardon, j'ai oublié de répondre à la question. Je pense quand même que parmi les choses qu'on a sans doute retenues, peut-être ce qu'a fait le Covid, c'est aussi de changer durablement ou pas notre rapport au risque. C'est-à-dire que dans toutes ces questions-là, il y a toujours une question d'arbitrage entre des coûts et se prémunir contre des risques. Se prémunir contre des risques, c'est coûteux. Avoir plus de containers, etc., c'est coûteux. C'est inflationniste, comme vous le dites. Ça coûte quelque chose. Et pendant longtemps, on a beaucoup visé la réduction des coûts au sein des chaînes de valeur internationales. Et sans doute, aujourd'hui, les managers ont un peu modifié la balance entre les risques et les coûts parce qu'ils ont payé très fortement le risque. Mais est-ce que ça sera durable? Ça, l'avenir nous le dira.
Alors justement, Antoine Frémont, Bruno Le Maire disait le 8 janvier « Le premier risque économique dans le monde est désormais géopolitique. » C'est particulièrement vrai pour l'industrie maritime, selon vous?
Pour poursuivre la discussion précédente, comment je pense qu'il y a un point de rupture qui est la crise financière de 2008 pour le transport maritime. C'est-à-dire que avant 2008, on est pratiquement chaque année, alors je parle du transport conteneurisé, mais sur des taux de croissance à la chinoise, c'est-à-dire que chaque année, c'est du 5, du plus 6%, et ça semble infini, et ça semble, on dit, ça va se prolonger d'une façon infinie. Et puis il y a la crise de 2008 qui casse ça. Les liens entre le commerce international et la production sont plus exactement les mêmes. En tout cas, la croissance du commerce international est plus la même, et les compagnies maritimes rentrent dans une zone d'incertitude, et toute la décennie des années 2010 ont été des années de profonde restructuration et de concentration pour l'industrie maritime, ce qui fait que d'ailleurs qu'à la sortie du Covid, il n'y avait pas assez de capacité de transport. Donc aujourd'hui, face à un faisceau de risques géopolitiques, les risques environnementaux, le réchauffement climatique, je pense qu'il y a une prise de conscience à la fois des compagnies maritimes, mais aussi des logisticiens, finalement, de la nécessité de tenter de planifier au mieux les risques à venir, si tant est que ça soit possible. Mais sinon, c'est par rapport à ce que disait Isabelle Mélenchon, c'est vrai. À la fois le transport est quelque chose d'extrêmement régulier, hein, parce que ça se reproduit à l'infini pour alimenter les chaînes en flux tendu, et à la fois c'est une adaptation au quotidien. Et puis effectivement il y a systématiquement des petits grains de sable qui arrivent, et donc quand c'est majeur, maintenant l'idée c'est que il peut y avoir des accidents majeurs ou des risques majeurs qui remettent en cause ces chaînes.
Mon Dieu, je crois qu'il n'y a plus de pont. Je suis vraiment reconnaissant. Ces personnes qui ont donné l'alerte ont permis qu'on empêche des voitures de passer sur le pont.
Le périphérique sera fermé pendant 4 ans. Mais la principale chose à faire maintenant est d'ouvrir ce canal de navigation. Sinon, ça va punir Baltimore, les compagnies de croisière, l'équipement lourd de Caterpillar, Mercedes-Benz, notre exportation de charbon pour tout le monde. Le port de Baltimore est notre plus grosse source de revenus dans tout l'État. Et maintenant, notre gagne-pain est fermé.
Alors l'autre événement qui a beaucoup fait parler de lui assez récemment, c'est bien sûr la collusion entre le porte-conteneurs singapourien Dali et le pont autoroutier Francis Scott Key de Baltimore aux États-Unis, et ce qui a provoqué l'effondrement de ce dernier dans la nuit du 25 au 26 mars. Alors le port est une véritable plaque tournante économique, il se place au 9e rang des ports les plus importants aux États-Unis pour le fret international. Joe Biden a d'ailleurs tiré la sonnette d'alarme, mais ce que je trouve intéressant dans cet événement aussi, c'est au-delà du blocage potentiel qui va se produire une nouvelle fois et des accidents, vous l'évoquiez Antoine Frémont, c'est l'idée que selon le site d'information économique Business Insider, cet accident pourrait provoquer les plus grosses pertes de l'histoire des assurances maritimes, puisque le coût de la catastrophe s'élèverait à 3 milliards de dollars. On parlait de la gestion du risque, de la façon d'envisager les événements même les plus improbables. Antoine Frémont, est-ce que finalement les assurances sont l'acteur clé du fret maritime, alors qu'on ne les connaît que partiellement, on va dire?
Alors, là aussi, c'est intéressant, c'est-à-dire que les valeurs de marchandises qu'il y a sur ces navires sont de plus en plus considérables. Par exemple, le porte-conteneurs de Baltimore, il avait une capacité de 10 000 boîtes, donc on va dire que c'est aujourd'hui un petit porte-conteneurs, mais enfin, si vous avez vu les images, c'est déjà relativement impressionnant. Et donc, en fait, maintenant, sur un navire porte-conteneurs, vous pouvez voir jusqu'à 1 milliard de dollars de marchandises sur le porte-conteneurs en fonction de la nature, donc de la nature de la marchandise. Donc, effectivement, en termes d'assurance, c'est tout à fait considérable. Et puis là, il y a l'histoire du pont qui s'est effondré, avec des personnes qui sont décédées. Et donc tout ça entraîne une inflation de coûts, là, hein, pour le coup, et qui mettent les assurances maritimes, parce qu'effectivement, un armateur, à son navire, il va être assuré, et donc pour l'assurance, c'est pas une bonne nouvelle.
On l'imagine aisément, effectivement.
Et le navire, vous avez dit qu'il était singapourien, ça c'est intéressant, en fait, il battait pavillon de Singapour, mais par rapport à ce qu'on a expliqué précédemment, il était affrété, donc loué, par la compagnie danoise Maersk, dans le cadre de ces lignes régulières dont j'ai parlé.
Oui, donc on voit bien effectivement tout l'enjeu effectivement de la configuration de ces routes-là. Isabelle Méjean, cet accident, il n'est pas non plus sans rappeler celui de l'Evergreen, hein, qui avait bloqué le canal de Suez pendant près de 4 mois, il y a pratiquement un an tout pile. Et une autre limite avait été pointée jusqu'alors et qui, en fait, recoupe un petit peu ce que vous disiez, Antoine Frémont, sur cette espèce de course en gigantisme, alors non pas en termes de valeur monétaire, mais en termes vraiment de poids et de grandeur. Est-ce que le fait de surcharger des cargos, ou en tout cas d'en avoir de plus en plus, des bâtiments de plus en plus importants en termes de taille, c'est une des fragilités de la logistique maritime, selon vous, Isabelle Méjean?
Pas spécifiquement. Enfin, là, évidemment, quand il se passe quelque chose, ça a un impact sur un gros montant. C'est toujours pareil. C'est une question d'optimisation des coûts. C'est une manière de faire baisser les coûts de manière très importante. Et encore une fois, les coûts du transport international et du fret international ont diminué de manière massive sur le 20e et le début du 21e siècle. C'est vraiment des proportions très, très importantes parce que finalement, on a optimisé et profité des économies d'échelle, hein, mettre beaucoup de boîtes sur un bateau, c'est faire des économies d'échelle et ça a une rentabilité qui est très importante.
Mais sauf que ça pose une autre question aussi, au-delà des accidents, on va dire très ponctuels et on l'espère qu'ils vont rester plutôt rares, l'autre question c'est celle aussi de l'impact environnemental, qui est aussi un tournant que l'industrie maritime doit prendre. De ce point de vue-là, bon, on a aussi la situation dans le canal de Panama qui est, comme je le disais, un peu plus tôt à sec, et qui vient, on va dire, réguler très fortement le transport. Est-ce que, de façon générale, on le sait, le transport maritime est assez polluant, je crois que c'est 3% des émissions de CO2 à l'échelle mondiale. Est-ce qu'il n'y a pas une reconfiguration du modèle qui va devoir être repensée à un moment donné, Isabelle Méjean?
Si, sans doute, mais moi je pense pas du tout qu'elle va venir des compagnies de transport international et ni des entreprises elles-mêmes. Et ça va, je ne pense pas que ça passe par une baisse du gigantisme, parce que ces économies d'échelle, elles ont aussi une vertu environnementale, hein, on s'en rend pas toujours compte, mais c'est moins polluant de transporter sur des plus gros bateaux. Et puis, effectivement, il y a sans doute des investissements d'infrastructures à faire. Clairement, la sécheresse est un enjeu très important. Les périodes de sécheresse sont des enjeux très importants pour ces compagnies. Mais ces compagnies, elles s'adaptent au changement climatique comme toutes les autres compagnies. Donc, je pense que très certainement une manière différente de faire du commerce international qui est nécessaire, mais celle-ci ne va pas partir des compagnies de transport. Elle passe par la régulation, la réglementation et aujourd'hui la taxation du carbone dans le secteur du transport maritime qui est à l'ordre du jour finalement en Europe. C'est en cours, hein. Mais ça peut reconfigurer de manière très importante les routes du commerce international, mais encore une fois parce que on va toucher au prix des biens qu'on achète en Chine.
Et à plus fortiori, pas que maritime. Antoine Frémont, on parlait des investissements nécessaires à mettre sur la table pour entamer cette transition énergétique et cette potentielle décarbonation du secteur maritime. On peut le dire, les grandes compagnies maritimes, les grands armateurs ont les reins suffisamment solides pour faire ces investissements.
Oui, alors je reviens un tout petit peu sur le gigantisme. Sur le gigantisme, juste dire que justement maintenant le grain de sable prend des proportions catastrophiques. C'est-à-dire que les navires étant tellement imposants, un navire de 10 000 watts qui percute un pont, le pont s'écroule. L'Ever Given de la compagnie Evergreen qui se met en travers du canal de Panama, c'est une semaine de blocage et c'est immédiatement un bouchon considérable. Donc voilà, les effets du gigantisme sont celles-là. Et alors après, sur la question de la décarbonation du transport maritime, entièrement d'accord, les compagnies maritimes et et c'est continuer le business, hein, et parce que c'est leur raison d'être. Et peut-être ce qu'on peut dire, c'est qu'en fait, la prise de conscience, elle est récente, ou en tout cas, la volonté de prendre conscience que on doit affronter le problème est récente, et c'est effectivement parce que il y a des objectifs qui sont mis par l'Organisation Maritime Internationale de horizon 2030, horizon 2050, parce que l'Union européenne renforce les contraintes sur les compagnies maritimes, et que donc la question, c'est quelles sont les solutions alternatives par rapport actuellement à un système qui fonctionne depuis plus d'un siècle, qui consiste à utiliser des fuels lourds. Ça coûte pas cher, ça fonctionne bien. Le seul inconvénient, c'est que c'est très polluant.
Isabelle Méjean, est-ce qu'il faudrait craindre, est-ce que les armateurs sont en droit de craindre un remplacement du transport maritime par du fret aérien, par exemple ?
Alors, ce remplacement, il existe déjà. Le prix de l'aérien, du fret aérien a diminué plus rapidement que le fret maritime sur les 20 dernières années. Donc, il y a eu déjà une substitution importante. Parce que les technologies du fret aérien aussi ont évolué de manière très positive, très positive du point de vue des prix. Aujourd'hui, le transport maritime reste quand même très prédominant sur le commerce international, et je pense pas qu'on en ait à remplacer entièrement sa part de l'aérien.
Eh bien, ce sera la conclusion de cette émission. Un grand merci à tous les deux, Isabelle Méjean et Antoine Frémont, d'avoir participé à cette émission. Tout de suite, on écoute Dominique Méda.
Pourquoi la planification est-elle nécessaire ? Dans ces prochaines chroniques, je vous propose de réfléchir à ce que nous devons faire pour enclencher réellement la transition écologique et sociale, et pour réfléchir aux obstacles qui se dressent sur le chemin. Aujourd'hui, je reviens sur la nécessité de la planification. Dans une note passionnante intitulée « La planification, idée d'hier ou piste pour demain », publiée le 17 juin 2020, Daniel Agazinski et ses collègues de France Stratégie rappelaient la genèse et les avatars de la planification à la française. C'est au sortir de la Seconde Guerre mondiale, en juin 1946, qu'est créé le Commissariat général au plan, dont Jean Monnet prend la direction. Le général de Gaulle a suivi les recommandations que ce dernier a faites dans un mémorandum rendu en juin 1945. Selon celui-ci, le plan doit permettre d'accélérer la reconstruction de l'économie française tout en créant les conditions de sa modernisation. Cherchant à comprendre les fondements de cette planification à la française, la sociologue Marie-Laure Jelic défend l'idée que Monnet a été inspiré par le New Deal américain et que le commissariat général au plan de l'époque plonge ses racines dans l'économie de guerre tout en devenant la première institution keynésienne française. Il s'agit en effet, comme en temps de guerre, d'organiser la production en définissant les priorités liées à l'urgence, mais aussi de développer un appareil économique répondant à de nouveaux standards. Des commissions de modernisation réunissent différents acteurs, patronaux, syndicaux, administratifs, experts, pour coordonner la production. Les partenaires sociaux occupent une place essentielle dans cette définition d'un horizon souhaitable. Je cite « Le plan établit la hiérarchie des urgences et des importances », écrit le général de Gaulle dans ses mémoires, rappelant qu'il s'agit d'une ardente obligation. Sous l'impulsion de Jacques Delors, chef du service des affaires sociales du commissariat général au plan de 62 à 69, le plan va intégrer dans ses travaux les questions relatives à la qualité de vie. En 2006, le commissariat général au plan est transformé en centre d'analyse stratégique, puis en 2013 en France Stratégie. Depuis la fin des années 1990, la planification ne fait en effet plus recette. Certes, il existe des lois de programmation sectorielle, un programme d'investissement d'avenir, des schémas départementaux et régionaux, une stratégie nationale bas carbone et même, depuis 2020, un haut commissariat au plan. Comme l'écrivent les rédacteurs de la note déjà citée, il n'y a jamais eu autant de plans que depuis qu'il n'y a plus de plans. Mais cela pose évidemment la question de la coordination et de l'articulation de tout ceci. Lors de son discours de Marseille, durant la campagne présidentielle, le candidat Macron a fait un vibrant éloge de la planification écologique. Dès son arrivée à Matignon, la première ministre Elisabeth Borne a acté la création du secrétariat général à la planification écologique, chargé d'assurer la cohérence et le suivi des politiques à visée écologique. C'est un réel progrès. La transition écologique ne pourra en effet pas s'opérer sans une vision d'ensemble, un plan à 20 ans, une trajectoire de réduction des émissions, des moyens de contrôler le respect des objectifs et de redresser la barre, une programmation des investissements nécessaires, des reconversions à engager, des transformations à anticiper et accompagner. Le secrétariat général à la planification écologique développe aujourd'hui des COP régionales pour écouter les acteurs régionaux et décliner ces actions. Son action est essentielle. Elle demande néanmoins à être considérablement étendue et renforcée si l'on veut que la réduction de notre empreinte carbone s'opère de façon coordonnée et sans révolution sociale. Outre le retour d'une planification nationale articulée avec le niveau européen et le niveau local, nous avons aussi clairement besoin d'un retour de l'aménagement du territoire, d'une programmation des relocalisations, d'un séquençage des investissements. Bref, nous avons besoin d'un plan d'ensemble permettant d'engager les actions urgentes et celles de long terme et de mettre en cohérence les interventions de l'État et du secteur privé. Nous avons besoin d'un plan.
Merci Dominique pour vous réécouter, c'est sur le site de France Culture à la page du pourquoi, du comment ou sur l'application Radio France que ça se passe. Merci à Léa Sabourin qui a programmé cette émission et à Inès Gender qui l'a préparée. Merci également à l'équipe d'Entendez-vous l'écho, Léopold de Thiévin, Anouk Millot, Diane Devancet, Tom Umdenstock et Laurence Jeunepin. La semaine prochaine, vous retrouverez Tiffaine de Rocchini qui prendra le temps, en 3 épisodes, de revenir sur une économie de l'urgence telle que l'aide humanitaire l'a construit ou plutôt la reconstruit. En attendant, pour écouter cette émission et toutes les précédentes, rendez-vous sur le site de France Culture à la page Entendez-vous l'écho et sur l'application Radio France pour la retrouver en podcast et vous abonner à l'émission.